moi qui le tire.
Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Sud, nous voilà une fois de plus réunis pour l'émission En Culture, hein, l'émission culturelle, enfin une des émissions culturelles de Radio Sud, où il va être question de livres, de jeux et de tout ce qui tourne à la culture, aux bibliothèques de Florentville, Jamoigne et Gérouville. Alors nous sommes avec Lou, hein, qui est là.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Oui, Isabelle.
Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde.
Et Coralie.
Bonjour tout le monde.
Eh bien, nous y voilà. Eh bien, Coralie, tu es là. Et vous savez, chers auditeurs, que Coralie est spécialisée en jeux.
Oui, je suis là. Et j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait apprendre à bluffer. Parce que c'est toujours pratique de savoir bluffer. Alors voilà, bluffer, c'est un petit jeu à partir de 10 ans qui peut se jouer de 2 jusqu'à 10 joueurs. Donc parfait pour quand on pourra enfin sortir de chez nous et s'amuser autour d'un verre entre amis ou en famille. Pour une partie qui dure environ 30 minutes. Donc c'est juste le temps d'un bon apéro. C'est parfait. Alors le but du jeu est assez simple. On va vous poser une question sous laquelle il y a une véritable réponse. Et vous, en tant que joueur, allez devoir inventer une réponse qui fasse plus vrai que la vraie. C'est pas évident, mais il faut savoir bluffer. Alors du coup, comme le principe est vraiment super simple, je vous propose d'en tester une ou deux pour dire de vraiment choper le truc. Je vais faire le maître du jeu, hein, vu que c'est moi qui ai les cartes en main.
C'est bien pratique, oui. Hein.
Toujours. Et donc, je vais vous proposer une première question très facile. De quel pays nous vient la choucroute? Alors, chacun doit donner sa petite réponse.
Oui, ben là, ça vient d'Italie, parce que dans l'Italie, il y a un volcan, et sur le volcan, il y a une croûte. Et elle a un petit défaut de prononciation, elle voulait toujours parler de la lave qui était là sous la croûte, c'est devenu choucroute. Bon, c'est pas très convaincant, je m'en rends bien compte, mais enfin, bon, c'est une réponse.
C'est un premier essai. Mais on a bien compris, effectivement, Jean-Marie, que tu bluffais, parce que tout le monde le sait, c'est vrai que c'est facile, la choucroute, ça vient de la chouvénie. Et la Chouvénie, ben, c'est un des fameux pays qui a émergé après la chute du mur de Berlin. Donc il y a la Lituanie, la Lettonie et la Chouvénie, spécialité choucroute.
Alors voilà, ça c'est plus convaincant. Hein.
Oui, j'ai l'impression, mais vous n'avez rien compris du tout. Vraiment, hein, c'est n'importe quoi. Ça vient du Japon, mais c'est très mal prononcé, on doit prononcer choucroute. Ça fait très japonais. Et les Japonais prennent ça en même temps que les sushis. C'est moins connu ici, parce que vous savez, bon, la cuisine japonaise, ça vient seulement de sortir ici en Europe. Mais franchement, si vous allez au Japon, goûtez cette sushi.
Et donc, vous pensiez tous que la bonne réponse était l'Allemagne?
Non, l'Autriche.
Non, l'Alsace.
Non, la France. En vérité, la choucroute vient de Chine. C'était nous qui étions la plus proche, wow. Tout en bluffant.
Formidable, de Chine. Oh,
c'est magnifique, je trouve ça magnifique.
Le chou chinois et le chou de la choucroute seraient cousins.
C'est ça. C'est assez étonnant. Hein.
Oui. Est-ce qu'on est sûr que tu ne bluffes pas?
Écoute, si tu veux, tu peux avoir la carte.
Ah oui, mais est-ce qu'il y a une carte?
C'est comme les pâtes, hein. Elles n'ont pas été inventées en Italie, mais
non,
en Chine aussi.
Non, effectivement. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine et on pense que ça vient d'ailleurs.
Là, géographiquement, j'étais quand même assez près.
Oui,
effectivement. À quelques centaines de kilomètres près, hein, entre
donc
la frontière.
Oui, on a tous perdu.
Ouais, techniquement, on doit voter pour la réponse qui nous semble la plus crédible.
Ah ben oui, et quelle était la plus crédible?
C'est la mienne, évidemment, parce que sinon je coupe les micros et on ne vous entend plus, tout simplement.
Alors à l'unanimité, c'est Jean-Marie qui a gagné le point.
Bravo Jean-Marie.
Ça suffit de moi, tiens.
Alors j'en ai une deuxième qui est assez sympathique aussi. C'est quelle invention comestible doit-on au docteur Peter en 1875?
Oula.
Docteur Peter, 1875?
Oui. 1875.
Eh bien, ce sont...
L'invention comestible.
Oui, ce sont les bonbons pour la toux, puisque le docteur Peter était autrichien et qu'il venait des montagnes et que donc il avait accès aux plantes et aux fleurs des montagnes. Et il a remarqué... que l'hiver, lui, il n'avait pas de soucis et que les habitants du village le plus haut, proche de cette montagne, n'avait pas de soucis de bronches et de larynx, enfin, comme tout le monde peut avoir en hiver. Et c'était lié à l'émanation de ses fleurs. Et donc, lui, il en a fait un concentré et alors mélangé avec du sucre. Ça a fait des bonbons pour la toux.
Oui, moi, je pense que c'était le professeur Peter Kellogg qui a inventé les cornflakes. Hein. Voilà.
Tu penses ou tu es sûr?
Alors, je suis certain. Ah.
Mais moi, je crois que le docteur Peter s'est rendu en Chine en 1875 et il a inventé la choucroute parce qu'il a trouvé le chou. Et puis, il s'est dit, oh, le chou était un peu bizarre. Là, il a essayé et ça a donné la choucroute. C'est le docteur Peter.
Ah oui. Bien, bien.
Grand
bien.
Voyageur.
Je trouve quand même que la réponse d'Isabelle est particulièrement convaincante. Particulièrement plus convaincante qu'en tout cas la véritable réponse qui était le chocolat au lait.
Oh. D'accord.
D'accord.
Chocolat.
Enfin, en même temps, on apprend des choses. Hein.
Oui. Donc, le docteur Peter a mis du lait dans le chocolat.
C'est ça. Et il a fait du chocolat au lait.
Ok. Mais en fait, c'est intéressant ce jeu, mais on a envie d'aller du coup plus loin. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller vérifier. D'aller s'informer. Donc, on pourrait presque dire que ce jeu est une rampe de lancement pour d'autres moments où on va apprendre des choses. Quoi.
Oui.
Ça, c'est sûr.
J'ai failli prendre mon smartphone en cachette et vérifier choucroute origine.
Donc, voilà, il y a deux niveaux de difficulté. Donc, il y a le niveau bleu qui est, entre guillemets, plus simple et le niveau rouge qui, lui, est vraiment très, très complexe. Et voilà, à part deux paquets de cartes et une petite rampe pour voter, c'est à peu près tout au niveau du matériel. Donc voilà, tout est fait en carton. Donc c'est relativement résistant quand même, hein. La rampe pour voter est quand même relativement résistante, on a testé. Et voilà, il y a vraiment... c'est un des petits jeux qui nous permettent d'apprendre des choses en fait. Ce qui est plutôt sympathique.
Et de s'amuser, de travailler son imagination aussi.
Oui, et de passer un bon moment en rigolant.
Oui,
parce que quand même, je dois dire que l'invention de la choucroute au Japon, sachant que la vraie réponse était la Chine, c'était vraiment magnifique.
C'était savoureux.
Aussi savoureux qu'une bonne choucroute.
Voilà.
Bien voilà, Lou, tu as donné une bonne réponse, enfin, tu as bien répondu au jeu. Alors voilà, tu as la parole. Hein.
Ah, chouette, j'ai la parole. Alors moi, je vais vous emmener dans un tout autre univers. Je vais vous emmener dans un RER à 6h25. 7. J'ai trouvé à la bibliothèque de Florentville un livre que je ne connaissais pas du tout. Je ne connais pas non plus l'auteur. C'est Jean-Paul Didier Laurent. Et le livre qui est paru aux éditions Au Diable Vauvert en 2014... s'appelle Le Liseur du 6h27. Alors, ce qui m'a attiré, c'est la couverture. En fait, il y a 9 poissons, il y en a 8 qui nagent vaillamment dans un sens et un qui remonte hardiment dans l'autre sens. Et l'image m'a vraiment intéressée. Alors, j'ai découvert, en fait, en lisant ce livre, l'histoire de Guilain Vignol, que beaucoup appellent Vilain Guignol, évidemment, la contreprétrie est plutôt évidente. Et alors, Guilain Vignol, donc... c'est un ouvrier qui a une existence plutôt terne, plutôt morne, et qui travaille au pilon. Alors, je ne savais pas du tout ce qu'était le pilon, pas du tout. En fait, c'est une redoutable machine qui broie des livres invendus et qui s'appelle la Zestor 500. La Zestor 500, du mot Zerstören, qui signifie dans la belle langue de Goethe « détruire ». Alors, c'est assez ironique parce que Guilain Vignol est un passionné des livres et il passe sa vie, en fait, à les détruire puisqu'il est aux commandes de cette horrible machine dont je vais vous parler. La chose était née pour broyer, aplatir, piler, écrabouiller, déchirer, hacher, lacérer, déchiqueter, malaxer, pétrir, ébouillanter. Mais la meilleure définition qu'il eût jamais entendue restait celle que le vieux Giuseppe se plaisait à gueuler lorsque le mauvais vin qu'il ingurgitait à longueur de journée n'avait pas suffi à éteindre la haine viscérale qu'il avait emmagasinée au fil des ans envers la Zerstor 500, sa génocide. Et effectivement, cette machine infernale dévore, détruit les livres. Et détruit les livres, il ne reste plus rien du tout. Sauf parfois quelques petits feuillets rescapés de cette machine épouvantable et que Ghislain Vignol récupère le soir lorsqu'il va laver les entrailles de la machine. Ces feuillets, il les met sécher parce qu'ils sont tout humides et le lendemain, il les emporte dans une grande farde qu'il ouvre dans le RER de 6h27 et il lit ces feuillets aux passagers. Alors, ce sont des extraits qui n'ont ni queue ni tête, puisque ce sont des morceaux qui viennent de tas de livres, mais c'est très, très drôle. Et Ghislain, qui a une existence, à part ça, bon, il a une existence complètement monotone, il a pour seule compagnie un poisson qui s'appelle Rouget de Lille, et aussi, oui, Rouget de Lille, oui, c'est vraiment le nom, c'est vraiment très drôle. Et puis aussi le gardien de l'usine, qui s'appelle Yvon, et qui ne s'exprime qu'en alexandrin. Alors je vous jure, lire ces alexandrins, c'est un vrai bonheur. Et aussi Giuseppe, un autre personnage, qui en fait est un ouvrier cul-de-jatte, ancien employé du broyage et qui a été victime d'un accident. Alors, tous les matins à 6h27, dans le RER, les gens sont tout contents et ils sortent. Ceux qui étaient dans la rame où se trouvait Ghislain sortent vraiment beaucoup plus contents que les autres. Et il y a deux petites vieilles demoiselles qui, tous les mardis et tous les jeudis, prennent spécialement le train de 6h27 et un jour elles osent aborder Ghislain et lui demande de venir faire la lecture chez elle. Alors, chez elle, ce n'est pas vraiment chez elle, c'est vraiment incroyable. Enfin, je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous le lisiez, mais là, ça part vraiment dans le cocasse. Et puis, un jour, il arrive autre chose à Ghislain Vignol, il découvre sous son strapontin une clé USB. Et cette clé USB va changer sa vie. En fait, elle contient 72 fichiers qu'une Madame Pipi a écrit. Et pour Ghislain Vignol, c'est la révélation. Il veut absolument retrouver cette Madame Pipi parce qu'il est fasciné par ce qu'elle écrit. Et notamment, j'aurais bien voulu vous lire un extrait, mais simplement, elle a des tantologisme en fait, qu'elle appelle ça, parce que sa tante était Madame Pipi avant elle. Et par exemple, j'en ai trouvé un que j'adore, c'est « Les WC sont des confessionnaux sans curé ». Voilà, je trouve que c'est très très bon. Et alors elle a mis un petit livre d'or, comme dans les grands hôtels, à la sortie des toilettes publiques. Et puis tous les soirs, au moment de la fermeture, elle relève ce qu'elle appelle ses filets. Et elle prend le temps de parcourir les mots d'amour, les mots de haine, les mots qui vont du meilleur au pire. Je vous en donne une petite, un petit florilège. Bravo pour la propreté, Isabelle. Mieux que de simples toilettes publiques, un havre propre et très bien tenu. Continuez, René. T'avais qu'à faire des études, connasse. Votre papier est un peu riche à mon goût, sinon c'est parfait. Marcel, de passage ici, on reviendra rien que pour la propreté irréprochable des lieux. Xavier, Martine et leurs enfants, Thomas et Quentin. Bouffe-moi le cul, salope. Les rois et les philosophes fientent, et les dames aussi, Montaigne. Il serait bon de mettre à la disposition de la clientèle des magazines à l'entrée des cabinets. De plus, il est quelque peu dommageable que le choix du savon nous soit imposé. Il serait, je pense, intéressant de pouvoir choisir son parfum. Concernant la propreté, c'est correct. Si ce n'est quelques traces au niveau des joints, essayez le vinaigre blanc, Madeleine de Bourneuil. Alors, franchement, c'est un bouquin qui... C'est pas difficile à lire, c'est sans prétention. Je le trouve vraiment amusant, même si la fin est attendue. Bon, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Le quatrième de couverture parle de « un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d'humanité ». Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et je suis aussi parfaitement d'accord avec Bernard Lehu, apparemment un critique littéraire, qui a dit... Ce livre enchantera votre journée. Alors peut-être une dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il existe en audio. Il est lu par Dominique Pinon et ça dure 3h50. Alors si vous avez des trajets à faire, je veux dire, si vous êtes pris dans les embouteillages comme ça m'arrive de temps en temps, eh bien franchement, je pense que vous passerez un bon moment en écoutant ce livre. Je rappelle le titre, c'est Le Lézard du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent.
Oui, tu disais qu'il y a des poissons sur la couverture.
Oui.
Alors on pourrait peut-être écouter La Maman des Poissons.
Oh oui, de Bobby Lapointe. Et ça, ben c'est voilà. Une excellente idée.
C'est parti.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui, leur montre en comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Et bien voilà, la maman des poissons qui est très gentille. Alors à propos de poissons, vous savez bien, on dit toujours les gros poissons mangent les petits. Et puis dans la nature, c'est pareil, les petits animaux sont mangés par des plus gros et c'est ce qu'on appelle la loi de la jungle. Et Jean-Marie Pelt a déjà écrit plusieurs livres sur le sujet. Et cette fois-ci, c'est un livre de 2004 publié chez Fayat et s'intitule « La solidarité chez les plantes, les animaux et les humains ». C'est avec la collaboration de Franck Stéphane. Alors, il y a pour le moment à la bibliothèque de Florentville, et peut-être dans les autres aussi, je ne sais pas, l'opération, enfin, coup de cœur. Hein, quand on emprunte un livre qu'on aime vraiment bien, il y a des petits signets avec un très joli cœur rouge dessus. Et derrière, on peut mettre un petit mot, faire un commentaire, dire, signaler qu'on a aimé ce livre et pourquoi on l'a aimé. Et bien, j'ai adoré ce livre parce que ça remet en perspective la fameuse loi de la jungle. En réalité, c'est juste une interprétation politique des travaux de Darwin, hein. La survie du plus apte, la survie du plus fort, etc. Et pour des raisons vraiment idéologiques de type néolibéral, on a considéré que l'essentiel de l'évolution était dû au combat pour l'existence et à la survie du plus apte, en négligeant totalement tout ce qui était solidarité, coopération, entraide. Alors, il y a un anarchiste russe, un certain Kropotkin, qui lui, très tôt après la publication de L'Origine des espèces, a mis en avant l'importance de l'entraide dans les mécanismes d'évolution. Alors Jean-Marie Pelt en donne quelques exemples. Ça commence vraiment au tout début de l'existence de la vie sur Terre, il y a à peu près 4 milliards d'années. Voit apparaître des êtres vivants. Alors ça, c'est déjà quelque chose de très mystérieux. Et il dit, au fil du temps, ce n'est chaque fois que des coopérations. Sans rentrer dans les détails, on est constitué de cellules. Dans nos cellules, hein, tous les êtres humains, animaux, végétaux sont constitués de cellules. Il y a des mitochondries. Bien, les mitochondries, avant, c'était des bactéries qui étaient libres, comme ça, et qui sont rentrées à l'intérieur de cellules où elles étaient protégées. Donc ça, c'était leur avantage à elles. Et en même temps, elles se sont mises à produire de l'énergie pour les cellules en question. Donc c'est ce qu'on appelle une endosymbiose, vivre ensemble avec l'un à l'intérieur de l'autre. Alors on cite l'exemple des mycorhizes aussi, par exemple. Ce sont des champignons qui prolongent les racines des arbres, qui leur permettent d'échanger de l'information, d'échanger de la nourriture, des sucres, de l'eau, des minéraux, etc. Et Jean-Marie Pelt explique en fait que ce qui se passe dans la nature, c'est un équilibre entre l'agression et la coopération. Alors évidemment, on ne peut pas nier que l'agression existe. Hein. Il y a certaines personnes, comme Konrad Lorenz, qui en ont fait une interprétation positive en disant que l'agression allait à l'intérieur d'une espèce. Un carnivore qui s'apprête à manger une petite bête n'est pas du tout agressif. Il ressemble plutôt à moi qui vais manger un sachet de frites. Vous voyez, je ne regarde pas mon morceau de chocolat avec agressivité, je me réjouis de le manger. Donc le carnivore n'est pas agressif vis-à-vis de sa proie. Mais par contre, de chiens, de loups qui sont en guerre pour un territoire vont manifester une certaine agressivité. Et bien grâce à cette agressivité, les animaux se tiennent éloignés les uns des autres. S'ils étaient tous les uns sur les autres, et bien peut-être que les endroits les plus intéressants seraient tout à fait vidés de leur substance, vidés de leur vie, et que grâce à l'agressivité, ben ça se répartit. Et puis surtout, il insiste vraiment sur des tas d'exemples, comme il le dit, chez les plantes, les animaux, les humains, de ce que peut être la solidarité, de ce qu'elle peut apporter, et aussi c'est une indication très claire sur ce que les humains seraient supposés faire dans leur avenir, donc mettre un peu en sourdine leur agressivité. Toutes ces histoires d'OPA, de grosses sociétés qui deviennent tentaculaires et qui finissent par tout posséder, ce qui pose des problèmes démocratiques. Il faut vraiment qu'on réintroduise une bonne dose de solidarité, une bonne dose d'entraide et de coopération. Et il nous explique que la nature nous montre ça, la nature nous montre la voie. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur. Ce que j'ai mis en un livre qui fait du bien. Vraiment, moi, il m'a fait un bien fou, ce livre-là, je pense qu'il ferait du bien à beaucoup, beaucoup de gens. La loi de la jungle est faite aussi de solidarité.
Mais oui, et ça me fait penser à la fable de Jean de La Fontaine. Alors, est-ce que c'est le lion et le rat qui terminent par « on a toujours besoin d'un plus petit que soi » Je crois bien que c'est celle-là, hein, où le lion se retrouve pris dans les raies d'un filet, et finalement, c'est le petit rat qui va venir... grignoter la corde et va sauver le lion. Or, effectivement, au départ, on pourrait se dire que c'est le lion qui va manger le rat. Mais là, sans le rat, il était fini.
Oui, tout à fait. Et Jean-Marie Pelt cite cette phrase à plusieurs occasions. On a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Mais...
Or, pourtant, c'est toujours c'est tout dit les petits qu'on se poche.
Ouais.
Ça aussi. J'ai une petite question, moi, Jean-Marie. C'est un bouquin qui est accessible à tout le monde, même si tu n'as pas de connaissances scientifiques particulières.
Oui, je pense que le mieux, c'est que tu le lises.
Okay.
Et puis tu donneras ton avis. Parce que, bon, moi, j'ai fait des études scientifiques. Et il y a beaucoup de choses que je lis comme un roman et qui vont paraître fort, fort ardues, ne fût-ce que pour des questions de vocabulaire. Mmh. Ceci étant dit, Jean-Marie Pelt était un vulgarisateur extraordinaire. Et il n'hésite pas à faire un petit peu d'anthropomorphisme. Donc de parler de mariage, de divorce, et je trouve que ça rend la lecture, ça l'enrichit en réalité. C'est par une espèce d'analogie, on peut se faire certaines idées de choses compliquées, mais simplement par les images qu'il propose.
Oui.
Bien, je vais le lire.
Voilà. Alors, un petit morceau de musique. Et j'avais pensé à Une loi de la jungle assez chouette, à une époque où Disney n'était pas encore une société tentaculaire, et nous invitait quand même à profiter de la vie avec peu de choses. Écoutons plutôt.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau,
fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons, et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux.
Tu manges des fourmis?
Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein?
Mowgli, attention!
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui!
Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris?
Oui, merci Balou.
Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités.
Alors viens toi, et en cadence.
Oh. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux?
Pour être heureux.
Et si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein? Gratte, oh, un poil plus bas, oui, c'est ça.
Isabelle, oui. Tu vas nous parler d'un monsieur qui était tout petit, hein, il était tellement petit qu'on l'appelait le Nabo Léon, je crois. Hein.
Alors, effectivement, mais ce n'est pas moi qui vais en parler, c'est... Nous voici dans la suite des rencontres que Jeanne Grandjean et son compagnon Benoît Langlois ont fait dans notre région. Et ici, nous sommes avec Édouard Risette, que certains ont bien connu puisqu'il a été longtemps professeur d'histoire. Et il a choisi de nous parler effectivement de Napoléon, mais alors pas Napoléon Bonaparte, mais son neveu, Pierre-Napoléon Bonaparte, qui a plusieurs connexions avec notre région. Mais je laisse la parole à Monsieur Risette.
Mais oui, c'est vrai qu'il s'en passe en gomme, hein.
Parfaitement.
Pierre-Napoléon Bonaparte est né en 1815. Il est né au moment où Napoléon arrive à Sainte-Hélène, à peu près. Il est le fils de Lucien. Lucien, c'est un des frères de Napoléon. Ce garçon a une vie assez aventureuse et même un peu scandaleuse, parce que dans sa jeunesse, il va être arrêté, il va être emprisonné. Et puis à nouveau, il va assassiner un garde pontifical, ce qui lui vaudra... Donc, un emprisonnement au château Saint-Ange de Rome. Donc, il est né, lui, à Rome. Pourquoi ? Parce que son père, Lucien, avait épousé une femme, d'ailleurs originaire par les Jacobs de Florentville. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé. Et Pierre-Napoléon Bonaparte donc, avait une maman qui était originaire de cette région. Mais Napoléon considérait que son frère avait fait un mariage qu'il ne voulait pas qu'il fasse. Il trouvait que la femme de Lucien n'était pas assez noble. Alors il a demandé à son frère de divorcer. Mais Lucien a refusé, toujours, et il s'est réfugié en Italie. C'est comme ça que... Il a d'ailleurs eu 8-9 enfants, je crois, avec son épouse. Et Pierre-Napoléon Bonaparte est un de ses enfants né à Rome. Donc Pierre-Napoléon Bonaparte va être, comme je vous l'ai dit, emprisonné. Il va être banni, parce que sa peine, qui était une peine de mort, est commuée en bannissement par le pape, qui était un ami de Lucien, son père. Et il va arriver en Belgique. Pourquoi ? Mais parce qu'il a des ancêtres en Belgique. Et il va s'installer d'abord à Daverdisse, avec sa compagne. Mais sa compagne va décéder, je vous passe aussi les détails. Il va retrouver une seconde compagne qui s'appellera la princesse Nina. Il va vivre en 1848 la Révolution en France. Il sera nommé député de la Corse et il va aller vivre quelques années en Corse. et puis revient de la Corse. Nous sommes en 1860 déjà. Et 1860, ça m'intéresse parce qu'il, Pierre-Napoléon, va louer le château d'Orval. Ce château qui est occupé maintenant par la famille d'Autrep. Il y a une vieille photo que l'on trouve sur des cartes postales et d'autres qui montre ce château où Pierre-Napoléon Bonaparte a vécu. Et c'est là que va naître sa fille Jeanne. Et un peu avant, il avait eu aussi un fils Roland. Mais en 1870 arrive l'affaire Victor Noir. Je vous passe les détails. Il va, il est à Paris, et il se dispute avec un journaliste. Il sort son pistolet et il le tue. Aussi, il est condamné à une peine de prison et puis à un grand procès à Tours, une cour spéciale. Et là, on reconnaît qu'il ne l'a pas tué volontairement, donc il est libéré. On accusera peut-être Napoléon III, son cousin, d'être intervenu peut-être dans son acquittement. Et puis 1870, c'est la guerre franco-allemande. Et là, Napoléon perd la guerre. Il est même emmené en Allemagne. Et Pierre-Napoléon Bonaparte ne reçoit plus de pension de France, comme c'était le cas. Il se retrouve sans argent, pratiquement. Alors, entre-temps, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il avait acheté, en 1862, le domaine des Épieux. Donc, pendant 8 ans, après Orval, il va vivre aux Épieux, parce qu'il aime la chasse. Et là, il passe des années heureuses, juste avant l'assassinat de Victor Noir. Termine mal sa vie, il va mourir à Versailles, il est séparé de sa femme et de ses enfants, il meurt dans une chambre d'hôtel et il a demandé qu'on le mette sa paillasse par terre parce qu'il veut mourir comme un soldat. Voilà, il décède en 1881.
Eh bien, je vois sur l'écran là, que Coralie a préparé des choses.
Je prépare toujours des choses, tu sais bien. Je ne viens jamais avec un seul jeu. Moi, j'aime bien quand il y a plein de jeux et qu'on s'amuse beaucoup. Alors ici, j'ai décidé de vous présenter Candy Lab, qui est un petit jeu à partir de 8 ans, en fait. Donc parfait pour jouer avec des enfants. On peut jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs pour une partie qui va durer environ 15 minutes. Le but du jeu est très très simple, il faut se prendre pour Willy Wonka. Willy Wonka, le fameux confiseur chocolatier très très connu de Roald Dahl. Hein, ça va, Charlie et la chocolaterie, voilà. Et donc, on joue des confiseurs, on doit passer des commandes, on doit récupérer des commandes, et le but du jeu, c'est d'être le meilleur confiseur du monde, comme d'habitude. C'est toujours un petit peu ce qui se passe dans les jeux, c'est qu'il faut toujours être le meilleur. Alors ici, on a les fameux bonbons qui sont représentés par des petits bâtonnets en résine que vous entendez probablement cliqueter dans mes mains, qui ont 3 couleurs. Donc on a des bâtonnets roses, des bâtonnets bleus et des bâtonnets oranges. Sur chaque bâtonnet, il y a des petits symboles et des points. Alors, le but du jeu, c'est de faire la mise en place d'abord. Il faut placer tous les bâtonnets ensemble, de manière totalement aléatoire. Et ensuite, il faut distribuer des cartes aux joueurs qui vont jouer les confiseurs. Alors, sur ces cartes, on va avoir des symboles de bâtonnets, évidemment. Le but du jeu, une fois qu'on a fait notre jolie petite ligne de bâtonnets, voilà, moi je fais ma petite ligne de bâtonnets, hop. On regarde dans ses propres cartes si on a une combinaison de bâtonnets qui peut fonctionner. Alors ici, j'ai trouvé une carte avec un bâtonnet bleu à côté d'un bâtonnet rose. Et cette combinaison fait partie de ma ligne. Donc, à mon tour, je peux décider soit de jouer la carte commande pour pouvoir récupérer ces 2 bâtonnets. Ou alors me débarrasser de 3 bâtonnets, 3 petits sucres d'orge pour pouvoir récupérer un certain nombre de cartes qui va m'être donné par la somme des points qu'il y a sur les bâtonnets. Donc ici, j'ai un bâtonnet 1 et un bâtonnet 2 et donc je pourrais piocher 3 cartes éventuellement. Ou alors, si je n'ai pas de bâtonnet à donner, que je n'ai aucune carte qui me permette d'attraper des bâtonnets, je vais chercher une carte dans la pioche. Voilà, principe du jeu super, super, super simple, très, très facile, et qui fait travailler les associations de couleurs, en fait. Et ça fait travailler la mémoire visuelle, la réactivité aussi, parce que bon, voilà, il faut faire attention de bien prendre ses bâtonnets au bon moment, parce que sinon, on risque de se les faire shipper, puisqu'il y a plusieurs fois les mêmes cartes dans les mêmes dans le paquet de cartes. Alors, il y a aussi une carte joker, qui comporte un bâtonnet qui a les trois couleurs de tous les bâtonnets ensemble et qui permet donc de récupérer un bâtonnet au hasard sur la fameuse ligne. Voilà, donc il est très très facile d'utilisation, il est très très rapide. Et alors les petits bâtonnets sont faits en résine, donc ils sont très résistants, ils sont tout doux et les couleurs sont très très peps comme ça. Voilà, c'est pas des couleurs pastel du tout, c'est vraiment des couleurs très vives et très colorées. Et voilà, quand on fait toute une ligne avec les trois couleurs ensemble, ça peut très vite donner un joli petit arc-en-ciel bien sympathique.
Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir évidemment le plus de points possible.
C'est ça, sachant que les points se trouvent sur les bâtonnets. Oups, pardon, j'ai fait tomber un bâtonnet. Donc, les points se trouvent au milieu, donc au centre du bâtonnet, et il faut les engranger, les comptabiliser, et une fois qu'on a fait la somme de tout, on a la somme des points totaux. Voilà, il est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est pour on peut déjà commencer à jouer à partir de 8 ans, donc c'est vraiment un jeu qui a une prise en main très très rapide, très très facile, avec des cartes qui, moi, je trouve, sont particulièrement belles, parce que le décor, en fait, est une machine à bonbons. Voilà, il y a un décor de machine à bonbons, un peu à la Willy Wonka, à la Charlie et la chocolaterie, quelque chose de très très, très 19e, avec des engrenages, des écrous, ce qu'on appelle le style steampunk.
Steampunk, oui.
Qui est très, très, très sympathique, je trouve. Et voilà, et comme il y a plein de couleurs, c'est super. Enfin, moi, c'est un joli petit coup de cœur, je trouve qu'il est vraiment sympa et qu'il gagne à être connu.
Et donc, rappelle le nom du jeu.
Donc, ça s'appelle Candy Lab, laboratoire de bonbons.
Laboratoire de bonbons, Candy Lab.
Voilà.
Pour les gourmands.
Exactement. Et du coup, je me disais que peut-être nous allions écouter une autre chanson de gourmand. Pourquoi pas les bonbons de Jacques Brel.
Mais quelle bonne idée.
Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement... Bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton, je les ai emportées de bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8h. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche! Allez! Pour la saison, j'ai emporté de bonbons. Si vous saviez comme je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons, j'ai emporté le bonbon. Oh oui, Germaine est moins bien que vous, ouais. Ah oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez mille fois raison. Je les ai emporter de bonbons. Et nous voilà sur la grande place, sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, j'essaie d'apporter des bonbons parce que les fleurs impérissables.
Mais revoilà Isabelle, hein. Et donc tu nous parles du livre de Marie Fizen, hein. Et est-ce que ce serait possible que tu commences par un petit résumé de là où on est rendu dans l'histoire, hein?
Oui, Jean-Marie, alors effectivement, je vais un peu récapituler tout ce qu'on a déjà entendu depuis quelques émissions. Donc Marie Fizen nous parle d'une femme de caractère, et cette femme de caractère, c'est sa tante Juliette. Effectivement, c'est un sacré personnage, hein, qui est sévère, qui lui faisait peur, qui était toujours habillé de noir et qui se promenait toujours avec un grand sac. La mère de Marie Fizen avait même l'impression que c'était un sac de voyage. Il y avait à l'intérieur des trousseaux de clés de tout calibre. Il y avait quelques mouchoirs, il y avait des lettres, des petits papiers, peut-être sans importance ou peut-être avec de grands secrets. Il y avait des bonbons à la menthe. Bref, un vrai inventaire à la Prévert à l'intérieur de ce sac, dans lequel, bien sûr, il était inimaginable de penser, regarder et encore moins fouiller. Et puis, elle venait souvent voir son frère, donc le père de Marie Fizen, sa belle-sœur, et elle adorait évidemment colporter les potins, partager ce qu'elle avait entendu sur les uns sur les autres, et tout cela s'accompagnait toujours d'un bon café. Alors dès que la tante débarquait, la mère de Marie Fizen savait qu'il fallait préparer du café qui allait servir pendant toute l'après-midi, jusqu'au moment où la tante Juliette s'en retournerait à Isel, dans son magasin où elle partageait son temps avec son mari Jules et puis sa fille qui s'appelait aussi Marie. Et puis il y avait aussi un petit chien, Tony. Alors un jour, la grand-mère est morte. La grand-mère, c'était la mère de tante Juliette, c'était la mère du père de Marie aussi, et aussi le père d'une autre Marie, une des sœurs qui était partie jusqu'en Chine, imaginez donc, disait-elle, en Chine, pour être bonne sœur. La grand-mère est morte et pourtant un jour on a dit à la petite Marie Fizen, écoute, tu vas aller en vacances chez ta grand-mère. Alors elle n'a pas bien compris, mais en fait c'était chez la tante Juliette qui vivait jusque-là avec sa mère. Et chez la tante Juliette, c'était pas très réjouissant. Elle savait qu'elle aurait sur elle toujours le regard sévère et qu'elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle voulait. Elle ne pourrait pas aller jouer dans les champs, dans le terrain vague en face de la maison. Elle ne pourrait pas jouer dans le jardin de peur de se salir. Elle devrait faire attention à ce qu'elle dirait. Et puis surtout, au qu'en dira-t-on, au regard des uns, des autres et des voisins. Et puis même dans le magasin, elle se disait qu'elle ne pourrait pas faire grand-chose. Et pourtant, très vite, une fois qu'elle était en vacances chez sa tante, elle a compris que si elle ne disait trop rien, si elle restait sage devant les clients, eh bien sa présence serait tolérée. Parce que la Juliette, c'était la Juliette. Mais dans le commerce, elle s'y connaissait. Les palabres s'éternisaient et ciblaient avant tout le service et la recette. Des pointes de toutes les tailles, des clous de sabots, des vis et le tournevis, un rabot, un râteau ou le manche de brosse, une brosse de rue, des charnières, une clé, mais plus souvent un verrou, de l'outillage en tout genre, le marteau et un burin, la scie, la hachette, la serpette, la bêche, la fourche et la faux, avec sa pierre à aiguiser. L'outil dont le client avait toujours besoin, c'était la triquatch, la tenaille. Au bout du compte, le magasin était un énorme ramassis que l'on aurait pris quasi pour une tonne de ferraille. Des torches de ficelle, des cordes pour les veaux et les chaînes pour les vaches.
si neuves que je les aurais vendues pour de l'argent lourd. Des rouleaux de fil de fer pour ficeler les fagots, et le fil barbelé qu'il fallait servir avec les gants qu'il faut, ça n'arrêtait pas. Mesurer, peser, emballer. L'oncle et la tante faisaient ensemble le boniment sur la quantité, le pesage et le prix, mais surtout la qualité, parce que la qualité vous ramène le client. Dès l'instant de passer à la caisse, tante Juliette sortait ses clés pour ouvrir le tiroir. Le trousseau n'arrêtait pas de cliqueter sous le bout de ses doigts au creux de sa poche. Endroit stratégique du tablier, qu'il fallait toujours renforcer d'une pièce, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, de tissu fleuri ou encore d'un noir satiné, mais très bien appliqué. De plus, tante Juliette exhibait les clés de son paradis retenues d'un nœud supplémentaire à son mouchoir. À côté de ses nombreux rayonnages, les poils plastronnaient dans leur taille, leur grosseur. Les godins étaient merveilleux à voir dans leurs robes de tôle noire et cirée, la porte et le couvercle enjolivés d'une fonte émaillée, soit brune ou vert bronze. Je les vis tellement beaux que je passai les doigts sur leur pourtour et je les vis tout noirs. « Oh, petit, qu'est-ce que tu fais ?» cria tante Juliette, alors que sa fille éclatait de rire. « Tu vois ce que c'est de caresser les fourneaux ?» Mais je répondis sans hésiter. « J'aimerais bien les frotter. » Aussitôt, ma cousine me glissa un chiffon. « Tiens, prends les poussières. » Enfin, que voilà un bon amusement. Il semblait que je pouvais attaquer dans tous les coins, du moins du côté de la ferraille. Le rayonnage des casseroles devint un tantinet plus délicat. Une bosse dans l'aluminium et l'article devenait une perte dure. Mais dès l'instant où j'approchais les statues de plâtre et surtout les porcelaines, les criailleries me percèrent le tympan. Tante Juliette m'arrêta brusquement. « Malheureuse, ne touche plus à rien !» Aussitôt, je me vis renvoyée à la cuisine avec ma cousine, chargée de faire cuire les pommes de terre, de veiller au fricot et de dresser la table. Dans cet endroit, la chaleur restait suffocante. L'énorme cuisinière était alimentée au bois pour un feu vif et aux briquettes pour tenir le foyer en veilleuse. Sur la droite, on y voyait le four, et sur la gauche, un chauffe-eau de haut en bas avec un petit robinet de cuivre afin de pouvoir remplir un seau d'eau si chaude qu'elle fumait autant que 10 paires de naseaux de chevaux. Par-dessus, en soulevant une plaque et avec une louche à longs manches, l'eau bouillante était prélevée à souhait. Ma cousine le faisait avec beaucoup de précaution. « Recule-toi, je pourrais t'éclabousser et ça brûle. » Les facturiers étaient empilés sur un petit secrétaire à côté des buffets et la correspondance du jour ou de la semaine encombrait une partie de la table. Les documents qui pourtant Juliette demandaient discrétion et surveillance étaient trimballés dans ses moindres déplacements jusque dans sa chambre à coucher avant de finir dans les classeurs au bureau. À les découvrir subrepticement, vous auriez dit « ce n'est que ça ». Ainsi, se voulant commerçante reconnue ou plus, patronne à part entière, Juliette portait sous son bras serré du coude et de la main un éternel registre gris d'une respectable dimension. Ma cousine rechargeait la cuisinière sans ménagement. « Allez-y donc ! Un ou deux morceaux de bois en surplus et cela va devenir intenable ». Au dehors, le soleil se montrait déjà très haut, tandis que je me pâmais derrière les carreaux. Aussi, j'enlevais mes chaussettes, juste au moment où rentrait tante Juliette. « Oh mon Dieu, mais que fais-tu encore ?» Impossible de s'aérer, même en plein été, tout comme sa fille qui, bien obligée, devait endurer ses grands bas de coton. J'ai dû renfiler les miens. Les filles convenables ne se présentaient jamais jambes nues. Il nous fallait fondre sous l'œil de la maîtresse de maison, qui me regardait, l'air suspicieux. Mais je n'étais pas sa fille, et durant la saison estivale, ma mère était bien contente de voir ses enfants sans bas. Elle aurait quelques trous en moins à repriser. Et puis quoi ? L'été, c'est l'été. Il était là pour bien respirer et reprendre des vitamines gratis. Maman le répétait souvent. L'après-midi, en chaussettes et tablier à manches longues, parce qu'il était tout aussi inconvenant de se montrer bras nus, nous avions le droit de nous amuser dans la cour, en face, à l'entrée du jardin. Ma cousine avait ouvert son armoire à jouets et s'apprêtait à tout emporter. Sur un rayon, la série de bécassines m'enchanta tel un rêve, et je signalai avec force que maintenant, je savais lire. Ma sœur Ida m'en avait parlé, certaine qu'en pareille compagnie, l'ennui n'était plus possible. Mais les deux cadettes rectifièrent, disant qu'elles n'avaient jamais pu les toucher. À la maison, les livres, c'était d'abord pour les grands. Je devais trouver l'astuce pour les chiper. Le charme fut vite rompu. Tante Juliette contrôla nos va-et-vient. Il n'en fallait pas tant pour se distraire. Vraiment, elle possédait une enfant parfaite. Pourtant, ma cousine soupirait tout en laissant tomber les bras et parfois une larme brillait en son œil. Moi, j'avais envie de courir, de sauter à travers les rues, dans les champs et les bois. J'aurais aimé voler d'un endroit à l'autre, m'envoler au loin, dans les airs, rompre cette morosité qui me retenait plus qu'à un fil. À l'ombre d'un saule pleureur, la fraîcheur nous envahit et d'un geste, je tirai sur ce fichu tablier. Ouf ! Qu'il faisait bon ! Ma cousine n'aurait pu en faire autant, elle qui s'était débarrassée de son cache-poussière bleue qui couvrait les longues manches du chemisier. Elle avait retenu ses nattes en une, dans une grosse pince à cheveux. Je la voyais vraiment très joyeuse, désireuse d'en profiter. Dès qu'elle entendait le pas d'un cheval, ma marraine regardait par-dessus le mur. Il y avait ceux qu'elle saluait d'un bonjour et du prénom, et les autres qu'elle connaissait moins, mais à qui elle envoyait un « bonjour, monsieur », à la façon de sa mère, en appuyant sur le « monsieur ».« Dis bonjour », chuchotait-elle, « c'est un client ». Avec les femmes, la parlotte se faisait de part et d'autre, courte et bonne. Ma cousine n'avait pas à se forcer, elle possédait vraiment un caractère aimable et joyeux. Mais de qui tenait-elle ça ? À l'heure du goûter, tante Juliette nous appela sur le seuil si bien que je remis vivement le tablier. Tony ne nous quittait pas d'un pouce. J'avalais la dernière gorgée d'ovomaltine quand ma cousine me dit tout sourire. « Et maintenant, la surprise !» Mais sa mère lui coupa la parole. « Vous allez toutes les deux chez la couturière. » Tout à fait interloquée, je questionnais, prête à sauter sur mes deux pieds. « Chez tante Louise ? Oh, le pavé dans la mare n'aurait pas fait plus de dégâts. Mais oui, chez nous, la couturière, c'est une sœur à maman, je n'en connais pas d'autre. » « La sœur à ta mère n'est pas une couturière. Ici, nous allons chez une vraie couturière. » Le ton était sec, si raide que je n'osais même pas relever la tête. Comme dans tous les commerces de l'époque, il n'y avait pas d'heure de fermeture et le souper se passait entre ma cousine et moi. Elle réchauffait les pommes de terre avec une omelette au lard et recommençait pour ses parents dès qu'ils étaient libérés du dernier client. Leur conversation courait sur la vente du jour. Le client difficile, l'habitué ou le soi-disant inconnu. Le bon payeur ou l'autre qui couvrait le cahier. Il faudrait quand même en finir avec les crédits. Tante Juliette s'inquiétait en plus des mains lestes et s'en prenait à son mari, qui, paraît-il, ne surveillait pas assez. « Heureusement que j'ai l'œil à tout, appuyait-elle, parce que celle-là... » En général, c'était toujours une femme qui était visée. Assis sur le banc, au devant de la porte, après journée pleine, les paroles se faisaient rares et le repos meilleur. Tony folâtrait, disparaissait et rappliquait à nos pieds. Le très haut calvaire planté à l'avant de la cour, bien en face sur un morceau de terrain offert à la paroisse, projetait une ombre mince sous le lampion public. Il dominait le village. Ma cousine et sa mère l'entretenaient au long des semaines et des années. Pour quelle reconnaissance avait-il été dressé sur le sommet du village ? Était-ce une croix de mission ? La réalisation d'une promesse collective ou personnelle qui avait trait à la guerre de 14-18 ? Suite à la prochaine émission. Et puisqu'il était question des livres de Bécassine, je vous propose d'écouter, alors non pas Chantal Goya qui l'a popularisé avec « Ma cousine, c'est Bécassine », mais avec Georges Brassens, qui l'a lui aussi chanté.
Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. Ceux qui cherchaient la toison d'or ailleurs avaient bigrement tort. Tous les seigneurs du voisinage, les gros bonnets grands personnages, rêvaient de joindre à leur blason une boucle de sa toison. Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. C'est une espèce de robin n'ayant pas l'ombre d'un lopin qu'elle laissa pendre vainqueur au bout de ses accroche-cœur. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant à chanter la chanson des blés d'or en toute toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, au fond des yeux de Bécassine, de Pervenche, prenez racine. Si belle que Sémiramis, ne s'en est jamais bien remise. Et les grands noms à majuscules, les cupidons à particules, auraient cédé tous leurs acquets en échange de ce bouquet. Au fond des yeux de Bécassine, de Pervenche, prenez racine. C'est une espèce de gredin n'ayant pas l'ombre d'un jardin, un soupirant de rien du tout qui lui fit faire les yeux doux. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson des fleurs bleues en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, à sa bouche de belles guignes, de cerises tout à fait dignes, tout à fait digne du panier de Madame de Sévigné. Les hobereaux, les gentillâtres, tombés tous fous d'elle, idolâtres, auraient bien mis leur bourse à plat pour s'offrir ces deux guignols-là. Tout à fait digne du panier de Madame de Sévigné. C'est une espèce d'étranger n'ayant pas l'ombre d'un verger, qui fit s'ouvrir, qui étrenna ses jolies lèvres incarnat. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson du temps des cerises en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, c'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson du temps des cerises en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas.
Bien, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Sud, comme vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mais comme nous sommes dans une émission culturelle, il est toujours important de citer ses sources. Et Isabelle tient à citer la source d'une citation qui a été mentionnée.
Oui, donc le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, c'est de Jean Cocteau.
Et bien voilà, il fallait le préciser. Et on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est Jean de La Fontaine.
Exactement.
Voilà. Ah, c'est beau de se cultiver comme ça, hein, sur Radio Sud.
L'air de rien.
Eh bien voilà, on est bien forcés maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, de vous dire au revoir. Alors, au revoir Lou.
Au revoir à tous, à toutes.
Au revoir Isabelle.
Eh bien au revoir et à la fois prochaine.
Et au revoir Coralie.
Au revoir tout le monde, à très bientôt.
À bientôt.
En culture.